France Inter. Pierre Veille. Le téléphone sonne.
Oui, jusqu'à 20h, le téléphone sonne. Tout repose sur vous, c'est votre émission. Toutes les questions que vous vous posez encore ce soir sur les résultats des élections municipales, l'abstention record, la vague verte, l'échec de La République En Marche, le PS et LR qui ont plutôt bien résisté, la victoire symbolique du Rassemblement National à Perpignan, les enseignements de ce scrutin pour Emmanuel Macron, comment peut-il y répondre ? Tous ces thèmes qui vous intéressent, eh bien, allez-y, appelez-nous au 01 45 24 7000, vos mails sur franceinter.fr et bien sûr l'application France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour vous répondre, trois invités dans ce studio, Martial Foucault, politologue, directeur du CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po Paris. Bonsoir Martial Foucault.
Bonsoir.
Vous avez publié, je le rappelle, un essai en mars, « Maire au bord de la crise de nerfs » aux éditions de l'Aube. En ligne, au bout d'une ligne numérique, Gaël Slimane, qui est président et cofondateur de l'Institut de Sondage, Odoxa. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Thomas Legrand est avec nous. Thomas Legrand.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir Thomas, éditorialiste politique, chaque matin dans le 7-9 de la semaine sur France Inter à 8h moins le quart. Et cet été, le dimanche, sur Inter de 13h20 à 14h, une émission De Gaulle 2020 avec vous Thomas Legrand. L'héritage de De Gaulle, 50 ans après sa mort, avec des archives, des historiens et des personnalités politiques d'aujourd'hui. Mais ce soir, on parle du deuxième tour des élections municipales en France. C'était hier. Premier appel, Serge est à Paris. Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir.
On écoute votre question.
Oui, bonsoir, merci France Inter. Voilà, je me permets d'intervenir parce que depuis hier, les commentaires sur la progression et les nouvelles élections, enfin les élections de nouveaux candidats verts m'interrogent parce qu'à écouter les commentaires, on a l'impression que les Verts, ils ont été élus tout seuls. C'est-à-dire qu'à eux tout seuls, il faut 50 ou 47% des voix. Or, on obère dans la progression des Verts. La question, à mon avis, qui est fondamentale, c'est qu'il y a derrière les Verts, il y a le Parti Socialiste, France Insoumise, le Parti Communiste et d'autres forces de gauche et de progrès. Donc, il ne faudrait pas faire croire ou tenter de faire croire qu'il n'y a que les Verts, mais qu'il n'y a personne d'autre derrière, ensemble plutôt. Et en même temps, la deuxième question, c'est l'analyse qu'on peut avoir par rapport à cela, même s'il y a eu deux exceptions, Lille et Strasbourg, mais là, c'est plus, je pense, des questions de personnes, enfin, je ne veux pas entrer dans le débat,
oui.
Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une analyse en disant c'est une autre forme que la gauche peut se réunir sur des questions, et notamment écologistes, et je m'en félicite, mais qu'il y a un progrès de ce niveau-là et que ça peut ouvrir quelques portes ou des portes pour l'avenir en France. Mais pas simplement que c'est pas simplement
notamment,
les Verts, mais qu'il y a une progression des forces progressistes dans ce progrès, dans ce pays,
bien,
sur cette question.
Notamment la présidentielle en 2022. Martial Foucault, sur ses remarques de Serge.
Non, mais votre auditeur a tout à fait raison. C'est-à-dire que la victoire, la poussée d'Europe Écologie Les Verts est à la fois une combinaison tantôt de listes autonomes et qui ont été un enjeu dès le premier tour, l'impossibilité de constituer des listes d'union très larges avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, Génération, Place Publique, bref, l'ensemble des micro-formations parfois à gauche et aussi dans certaines configurations, c'est le cas notamment, on a beaucoup parlé de Besançon par exemple, mais on peut aller au-delà, Bordeaux avec quelques difficultés où les Verts ont été présents avec des colistiers appartenant à l'ensemble des familles de gauche. Donc oui, l'interprétation du résultat depuis hier soir doit montrer que dans certaines grandes métropoles, la victoire des Verts est pleine et entière parce que c'est une stratégie jusqu'à l'entre-deux-tours d'autonomie totale. En se disant, on regardera le score à l'issue du premier tour et on verra quelles sont les conditions d'une fusion de listes. Donc ça a plutôt très bien fonctionné et je dirais que pour pour les Verts, c'est une grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, le parti Europe Écologie Les Verts, et comme souvent des petites formations, était handicapé par ce mode de scrutin. Ce fait majoritaire à deux tours handicapait les petites formations. Et là, pour la première fois, les Verts ont réussi, à la fois avec un mélange, je dirais assez subtil, d'autonomie au premier tour ou de fusion, d'enjamber cette barrière qui était le premier tour. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et pour répondre complètement à Serge, bien sûr, l'interprétation depuis hier soir, c'est qu'on voit poindre une nouvelle recomposition de l'espace politique des gauches, de l'ensemble des familles de gauche. Est-ce que pour autant il faut surinterpréter en quelque sorte ce qui s'est passé au plan municipal sur des ambitions nationales dans les mois à venir? Je crois qu'il faut être prudent parce que tout va démarrer et au fond les Verts ont réveillé en quelque sorte au plan local un esprit de gauche qui s'était étiolé ces dernières élections.
À ce propos, ce courriel de Jean-Michel qui est à Roubaix qui nous écrit: si la gauche veut exister, gagner peut-être en 2022, doit-elle être unie comme elle l'a été à Paris ou Marseille? Parce que là, on voit que ça fonctionne très bien. Thomas Legrand.
Oui, alors elle n'a pas été unie à Paris puisque les Verts, au premier tour, y ont été de leur côté. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché pour eux parce que Anne Hidalgo avait déjà une image très écologiste pour la plupart des Parisiens. Anne Hidalgo est quasiment une candidate écologiste, pas évidemment pas EELV, mais écologiste plus que socialiste d'ailleurs. Donc, la question, c'est est-ce que pour plus tard, il faut être uni? Il faut toujours mieux être uni que divisé. Quelquefois, peut-être, quand dans les élections à deux tours, on peut y aller un peu séparé pour avoir des réserves. Mais pour répondre à Serge, effectivement, c'est des formations de gauche. Alors, il y a Strasbourg, il y a d'autres cas où c'est vraiment les Verts tout seuls, mais là, les Verts ont vraiment été le carburant qui a redynamisé l'ensemble de la gauche. Donc, c'est quand même vraiment une victoire des écologistes, avec évidemment des forces de gauche. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'écologistes, notamment le maire de Lyon, dit que l'écologie dépasse le cadre de la gauche. Je crois que c'est aussi le discours de Yannick Jadot, ça dépasse le cadre de la gauche. Donc,
mais Thomas, ça veut donc dire que aujourd'hui, désormais, la gauche, c'est une coalition avec en tête de l'attelage les écologistes qui remplacent peut-être pour très longtemps le Parti socialiste.
En tout cas, pour les municipales, vous savez, les électeurs peut-être. Alors là, il faudra peut-être demander ça à Gaël Sliman s'il a fait les études sur cette question. Mais les électeurs, dans cette période assez désidéologisée, les électeurs se spécialisent un peu. Ils savent que pour les municipales, pour les villes, pour leur vie quotidienne, leur cadre de vie, bien les écologistes auront des choses à faire et ils les mettent en avant. Pour les européennes aussi, ils leur donnent un bon score parce qu'ils savent que l'écologie, c'est la proximité et puis aussi le supranational. Pour le national, où il est question de régalien, où il est question de représentation diplomatique, où il est question de politique économique lourde, est-ce que les écologistes sont déjà armés pour être le candidat de toute la gauche? Eux le disent, ils y travaillent. Le PS regarde ça d'un œil plutôt bienveillant, d'ailleurs, Olivier Faure. De mon point de vue, ils n'en sont pas encore là. Mais on le verra. Je crois que chaque élection a sa spécificité.
Alors, cet électorat qui a voté nombreux pour les écologistes, on a reçu ce courriel. C'est Adrien. Ce sont au niveau national des quasi inconnus qui deviennent maires écologistes de grandes villes, à Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Poitiers, Grenoble, Tours ou Annecy. Comment expliquez-vous le succès de ces inconnus? Est-ce la victoire de la démocratie locale, des solutions, des problèmes du quotidien? Gaël Sliman. Gaël Sliman n'est plus en ligne avec nous, alors Martial Foucault, dans ce studio.
C'est à la fois, je dirais, bien sûr, la volonté de vouloir renouveler le personnel politique. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement un vote, comme on dit, un vote sur enjeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts représente une forme de crédibilité sur des propositions, des transformations écologiques. Mais je crois qu'il faudra être attentif sur l'interprétation qu'on donnera de cette poussée des Verts. Je crois que d'une certaine manière, même si c'est pas le premier moteur, il y a encore eu en 2020, chez un grand nombre d'électeurs, la volonté de faire un peu table rase avec un certain nombre de baronnies politiques au plan local qui n'avaient pas su montrer que la question et les questions qui seront les nôtres pour plusieurs générations de ces transformations et transitions écologiques pouvaient être, au fond, des réponses pouvaient être apportées par ces partis traditionnels. Donc, je dirais que c'est à la fois un vote, bien sûr, sur des questions environnementales, sur les questions de cadre de vie, mais aussi la volonté de dire et pourquoi pas les Verts, puisque nous avons été déçus par les réponses qui ont été apportées par les représentants locaux dans un certain nombre de villes. Et rappelons-nous, l'été dernier, deux épisodes de canicule, ouais. Et on a pu observer la difficulté avec laquelle la gestion de cette canicule dans des grandes métropoles, dans des grandes villes, provoquait un certain nombre d'interrogations sur la répétition de tels épisodes. On a depuis hier des réponses par rapport à ce que les différents maires sortants appartenant à des familles traditionnelles n'ont peut-être pas pu apporter comme anticipation, possibilité de changer ce cours des choses.
Un courriel de Jean-Marc, il nous écrit « Si le vote était obligatoire, cela changerait-il significativement le résultat de ces élections ?» Martial Foucault.
C'est
une allusion à l'abstention record. Non, hein, je rappelle, participation de 41,6%. C'est très faible.
Bon, ce débat sur le vote obligatoire, il est posé à chaque fois qu'il y a un épisode de très très forte abstention. Moi, je crois que depuis hier, on entend peut-être une surinterprétation en disant c'est une véritable déprime des Français, un désamour avec la politique. Non, je crois que quand même, il faut reconnaître que depuis 4 mois, nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et donc ce sursaut de participation qu'on aurait pu espérer pour le second tour, il s'est produit dans certaines villes. Et je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est à partir du moment où des électeurs ont vu leur candidat liste préférée éliminé dès le premier tour, dans un contexte sanitaire qui est celui que nous connaissons, la motivation pour aller dans l'isoloir, il faut être vraiment concerné par les enjeux débattus, et puis deuxièmement, avoir un sens civique très aigu. En revanche, prenons deux, trois exemples. Toulouse, sursaut de participation de 8 points. Ça veut dire que ce n'est pas une lame de fond qui a traversé tout le territoire de façon homogène. Là où il y avait des enjeux, là où effectivement les jeux n'étaient pas faits dès le premier tour, il y a eu une mobilisation. Donc je crois que les trois facteurs qui ont contribué à cette très forte abstention, un, la situation sanitaire, deux, des enjeux qui parfois n'étaient pas très clairs, où il n'y a pas eu de campagne pendant 3 mois et demi, et pourtant cette période était longue, et troisième raison, lorsque le score entre la liste arrivée première et seconde était très serré, eh bien ça a contribué à remobiliser l'électorat.
Thomas Legrand, cette question sur le site de l'émission, Inès qui est à Strasbourg, elle nous dit « Mais qui sont ces abstentionnistes ? Est-ce que c'est une forme de dégagisme incroyable alors que les maires sont les élus préférés des Français ? Est-ce que vos invités peuvent tirer des conclusions politiques nationales d'un scrutin local qui a déplacé 41% des électeurs ? » Thomas Legrand.
Alors c'est vrai que c'est troublant parce qu'on le dit depuis des mois que les maires sont les derniers élus pour lesquels les Français ont encore confiance. Vous savez, on parle de ces élus, de ces élus à portée d'engolade, ceux qui sont encore à l'échelle humaine. D'ailleurs, Emmanuel Macron, pour rétablir la confiance, dit qu'il va passer par les maires et veut confier, dans le cadre d'une sorte de nouveau girondisme, des missions aux maires. Et là, on voit que finalement, les Français ne vont pas voter pour leur maire ou à un très faible taux. Alors, on a beaucoup parlé du Covid, on a beaucoup dit voilà cette distance de 12 semaines entre les deux tours, les Français avaient la tête ailleurs, je ne sais pas. Ça sera très intéressant de détailler d'ailleurs qui sont ces abstentionnistes. Alors on a déjà des éléments, les jeunes, des classes populaires, mais parce que pour voir qui n'a pas voté, mais c'est très compliqué de se demander quel serait le résultat si ceux qui n'avaient pas voté auraient voté, parce que s'ils n'ont pas été votés, c'est qu'ils n'avaient rien de spécial à dire, en tout cas à ce moment-là. Donc On pourrait imaginer qu'il ne se soit pas passé grand-chose de très différent. Là, les écologistes ont beaucoup progressé. Ce sont les jeunes qui n'ont pas beaucoup voté. Et il se trouve que les jeunes votent plus écologistes que les autres. Donc, c'est très compliqué à détailler. J'imagine que les instituts de sondage vont se pencher, faire des enquêtes dites qualitatives pour comprendre mieux tout ça. Moi, je suis assez friand de ces enquêtes. Mais c'est vrai que ça met à mal une analyse selon laquelle le maire, vous savez, ce maillage du territoire national, ce maillage très serré démocratique des maires, le maire finalement eh bien, n'intéresse plus beaucoup les électeurs. On espère que c'est conjoncturel et que c'est dû au Covid et pas une tendance lourde.
Et en ce moment, déclaration d'Emmanuel Macron qui se trouve en Allemagne. Il est allé rencontrer Angela Merkel et il vient de dire qu'il dit ne pas vouloir tirer trop de conclusions nationales du résultat des élections municipales en France. Gaël Slimane est à nouveau en ligne avec nous. Ça fonctionne, président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Gaël Slimane, ce phénomène de l'abstention, vous l'avez analysé. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ben, je rebondirais sur ce que disait Thomas Legrand il y a un instant. C'est une abstention qui s'explique par un contexte très particulier, post-Covid. On sait que c'est moins la peur du virus cette fois qui a incité les électeurs à s'abstenir qu'une forme de désintérêt. Je dirais ils étaient un petit peu passés à autre chose. Ils avaient d'autres préoccupations que ces élections municipales. Je rejoins ce que disait Thomas Legrand sur les éléments que l'on connaît. On avait anticipé ce niveau d'abstention et on avait bien enregistré que l'abstention serait deux fois plus forte à peu près chez les jeunes que chez les plus seniors, chez les catégories populaires que chez les catégories les plus aisées. Et je rejoins aussi ce que disait Thomas, et c'est important que vous le notiez, enfin qu'on l'ait en tête, c'est que cette abstention n'a probablement strictement rien changé à ce qu'aurait été le résultat de ces municipales si davantage d'électeurs, comme d'habitude les deux tiers par exemple, s'étaient rendus aux urnes, parce que dans toutes les enquêtes depuis six mois maintenant, ce que l'on voyait, c'est justement cette volonté de sanctionner le gouvernement et le pouvoir en place, et cette volonté de pousser les écologistes. Donc très probablement qu'avec davantage d'électeurs, nous aurions observé le même résultat, voire même peut-être une accentuation encore de la poussée écologiste.
Au standard, Thibault est à Levallois-Perret, il nous écoute. Bonsoir Thibault.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Très bien. Alors moi j'ai une question sur la perception. Il faut beaucoup parler de la défaite de la République en marche au niveau de ces municipales, alors que de ma vision, il y avait un objectif d'avoir 10 000 conseillers municipaux. Je crois que ça a été à peu près atteint. En revanche, côté Rassemblement National et France Insoumise, on a, à part la ville de Perpignan, de ma vision, il y a eu, justement, ça n'a pas non plus été une réussite. Donc, voilà, je voulais avoir l'avis là-dessus et aussi sur cette vision de la communication entre les différents partis.
Martial Foucault, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. D'abord, échec de La République En Marche?
Oui, je crois que même c'est plus grave que l'échec. On est sur une forme de déroute parce que, effectivement, l'objectif de 10 000 conseillers annoncé par le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, en janvier. Et moi, je n'ai pas fait le décompte aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement, on est proche de cet objectif atteint. Alors, 10 000 conseillers municipaux sur un ensemble de 540 000 conseillers, c'est peu. Évidemment, tous les conseillers municipaux n'ont pas une étiquette partisane aujourd'hui en France, mais plus généralement, c'est à la fois pour moi un double échec, c'est-à-dire en termes de préparation et d'organisation d'une campagne, on voit un petit peu les limites de ce mouvement politique. Le choix des investitures pourra être questionné. Jamais, moi, j'avais pu observer autant de dissidence dans une campagne municipale dans les très grandes villes. À chaque fois qu'un candidat à La République En Marche a été investi dans un cas sur trois, il s'est trouvé opposé à un dissident et parfois même des parlementaires. Deuxième interprétation de cette déroute pour La République En Marche, c'est la décision d'être très stratégique, voire chirurgicale, en se disant nous allons faire des gains très symboliques, des grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux. Eh bien, tout ça s'est révélé un échec, y compris une stratégie un peu révisée dans l'entre-deux-tours, un peu dans la précipitation, de constituer des alliances avec une, un certain nombre de listes, les Républicains. Donc ça, au fond, c'est un véritable échec. Votre auditeur parlait du Rassemblement National. Oui, c'est vrai, on en a peut-être peu parlé. Consolidation des villes obtenues à deux villes près en 2014. Mais je regardais attentivement sur le nombre de conseillers municipaux. Le Rassemblement National avait presque 1400 conseillers municipaux sortants. Ce matin, ce sont seulement maintenant 800 conseillers municipaux. Donc oui, le Rassemblement National a aussi échoué pour cette élection à consolider cette entreprise de maillage du territoire.
Et Thibault parlait de la France Insoumise.
Ouais, France Insoumise a joué, j'allais dire, une stratégie beaucoup plus... plus invisible, c'est-à-dire en participant à des listes dites citoyennes, très souvent, et donc ils ne peuvent pas revendiquer des gains très très forts, parce que la France Insoumise avait, elle aussi, toutes les difficultés de constituer des listes totalement autonomes, avec uniquement des candidats à la France Insoumise, et ils pourront revendiquer d'ici de là la participation à des victoires de listes d'Union.
Thomas Legrand, cet échec important de La République En Marche, c'est aussi, selon vous, un vote sans visant directement Emmanuel Macron ?
Sans doute. En tout cas, c'est vraiment un échec important pour répondre à notre auditeur qui se demande si c'est vraiment un échec ou pas. C'est un cuisant échec. Hein. Ouais. 10 000 conseillers, c'est 2% des conseillers. Mais c'est un échec qui était assez prévisible, parce que est-ce que quelqu'un peut me dire quel est ce que veut dire le macronisme municipal ? On voit ce que c'est qu'un maire socialiste, que ça peut être un maire socialiste, un maire de droite, un maire écologiste, un maire RN, un maire La République En Marche. Alors vous me direz, il n'y en a pas de sortant, donc, mais il n'y a pas de programme spécifique. Quelquefois ils sont alliés avec la droite, plus rarement avec la gauche. Ça ne pouvait être donc qu'un vote de soutien au gouvernement. On sait que pour les élections municipales, finalement les électeurs votent pour les élections municipales, c'est-à-dire qu'ils votent pour des enjeux de proximité, avec quelquefois des un peu d'idéologie derrière, comme l'écologie ou peut-être la droite, la gauche. Mais là, il n'y a aucune structure, aucune colonne vertébrale de La République En Marche. Il n'y avait aucune raison que ça marche. À Paris, par exemple, on a bien vu qu'aux européennes, les électeurs de La République En Marche ont changé. C'était les électeurs du centre droit, alors que les électeurs de La République En Marche pour les législatives et les présidentielles, c'était plutôt des électeurs de centre gauche. Donc pour les municipales, chacun est rentré dans son rang. Voilà. Moi, alors là, je suis pas étonné. J'ai été étonné par beaucoup de choses pendant cette élection, notamment le score des écologistes. Mais je trouve tout à fait logique que La République En Marche se soit ainsi plantée.
Courriel sur le site de l'émission. Maurice, il nous écrit, mais quel rapport entre le succès écologique et la crise du coronavirus? Est-ce que l'épidémie de Covid-19 et le succès de l'écologie, est-ce que tout cela est lié? Gaël Slimane.
Écoutez, des écologistes, s'inscrit dans la durée. Il est dans le prolongement de leur succès des élections européennes et dans les enquêtes que nous réalisons le Doxa, notamment avec France Inter, sur notre baromètre politique. Depuis la fin de l'année dernière, les électeurs nous disent « nous voulons voter pour les écologistes ». C'est-à-dire que j'ai le titre de certains baromètres où on titrait les résultats de nos sondages en expliquant la poussée écologiste. Nous étions en janvier avant la crise du coronavirus, qui effectivement a probablement pu renforcer la volonté de voter écologiste, puisque dans un certain nombre d'autres enquêtes, on voit que les Français disent que tout ça les a fait réfléchir, les incite à se tourner davantage vers des produits, à faire attention à leur santé, et en tant que consommateur, à se tourner davantage vers des produits locaux, des produits bio. Donc cet ensemble-là, l'épisode coronavirus et confinement, a pu encore renforcer une poussée écologiste qui, de toute façon, était inéluctable, comme Thomas Legrand l'a bien dit, était inéluctable la déroute de La République En Marche. Quand même, sur Bordeaux,
sur Lyon et sur Paris, il fallait vraiment mettre une très grande bonne volonté et faire beaucoup d'efforts pour se planter comme La République En Marche s'est plantée, quand on voit le niveau des scores de ce parti dans ces villes et l'ancrage qu'ils y avaient. C'est-à-dire que la réussite d'Anne Hidalgo à Paris et des écologistes à Lyon et à Bordeaux doit beaucoup aux écologistes eux-mêmes, mais doit aussi beaucoup aux échecs de La République En Marche et aux erreurs de stratégie qui ont été commises.
Guillaume est en ligne. Bonsoir Guillaume, vous êtes à Montauban.
Oui, tout à fait. Oui, bonsoir, allez-y. Merci de prendre ma question. Je souhaitais m'interroger sur les résultats. Est-ce que les résultats des élections municipales ne contredisent pas la position de Yannick Jadot qui a été rappelé par Thomas Legrand tout à l'heure, qui était celle de dire que finalement l'écologie était une force de droite et de gauche, pas seulement de gauche, puisque on a bien vu que lorsque Europe Écologie Les Verts a été portée par toutes les forces de gauche et donc serait bien une force de gauche comme finalement la Macronie qui se disait ni de droite ni de gauche est bien une force de droite.
Martial Foucault.
Non, c'est probablement une des questions à laquelle nous serons en tout cas attentifs. Nous essaierons de comprendre, de démêler si effectivement l'appareillage idéologique d'Europe Écologie Les Verts conduit et porté par Yannick Jadot après le score aux européennes introduit une sorte de grand schisme à l'intérieur de cette famille politique entre une vision, on va dire, social-écologique à l'origine de ce mouvement et puis sur des enjeux autres que l'écologie, mais par exemple enjeux économiques. On voit une inflexion beaucoup plus vers le centre-gauche chez Yannick Jadot sur des questions comme la libéralisation, sur la question des accords de libre-échange. On voit qu'on n'est pas tout à fait dans ce qui a pu constituer l'accumulation des leaders passés d'Europe Écologie Les Verts. Et en vue, effectivement, d'être la force motrice des gauches dans un avenir proche, il y aura certainement un besoin de clarification de l'ensemble des positions.
Ça veut dire qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, il y a une ligne centriste et puis aussi une ligne à gauche toute.
Oui, c'est-à-dire que ce parti, si vous voulez, sur deux dimensions qu'on a coutume d'utiliser pour représenter l'espace politique en France, une forme de libéralisme culturel ou d'autoritarisme culturel, de conservatisme culturel, et puis un libéralisme économique ou une forme de retour à l'État. On voit bien que Yannick Jadot incarne cette position où il est très libéral sur le plan culturel, comme sa famille politique, mais sur le plan économique, il y a des divisions et des dissensions assez fortes. Et ça, c'est un point qu'il devra résoudre s'il veut effectivement embrasser l'ensemble des gauches aujourd'hui en France.
Thomas Legrand ?
Oui, je pense qu'il est faux de dire que le scrutin d'hier invalide ce que dit Yannick Jadot. Parce que d'abord, Yannick Jadot dit beaucoup de choses et le contraire, enfin, il change d'avis assez souvent. Mais l'idée qu'il faille réunir plutôt la gauche, Yannick Jadot y est plutôt favorable. Il a signé il n'y a pas longtemps une tribune avec beaucoup de gens de gauche, dont Olivier Faure. Là-dessus, mais il parle du dépassement et il faut dépasser la gauche pour gagner les élections présidentielles, surtout que la France n'est pas forcément à gauche en ce moment, il faut dépasser la gauche. Et pour gagner des villes comme Bordeaux, comme Strasbourg, comme Tours, comme Annecy et comme Lyon, il faut qu'il y ait eu un dépassement de la gauche. C'est pas des électeurs de gauche qui ont porté simplement de gauche et uniquement de gauche, qui ont porté à Lyon et à Lyon métropole, à Bordeaux, à Strasbourg, à Annecy et à Tours, pour prendre les villes qui sont plutôt des villes connues pour être dont le barycentre politique est plutôt au centre droit, il faut dépasser la gauche. Donc les écologistes savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner sans la gauche, mais qu'ils ne peuvent pas gagner uniquement avec que la gauche.
Courriel sur le site, je vous lis, être maire écolo, cela veut dire défendre l'environnement, mais aussi être confronté aux questions économiques, emploi, implantation d'entreprises. L'écologie de la décroissance, souvent défendue par Europe Écologie Les Verts, est-ce bon pour l'économie alors que nous vivons une crise sociale et économique sans précédent et avec un chômage qui va atteindre des sommets? Donc là, manifestement, un auditeur émet des doutes sur les stratégies économiques d'Europe Écologie Les Verts avec cette fameuse décroissance souvent évoquée. Martial Foucault.
Non, c'est probablement là aussi un des enjeux sur lesquels Europe Écologie Les Verts et d'autres formations politiques auront à imaginer, à inventer des propositions compatibles à la fois sur un modèle de création de richesses, pas nécessairement économique ou sens matériel du terme, mais d'envisager comment, au fond, les sociétés peuvent converger vers du bien-être sans forcément passer par un modèle qui est celui que nous connaissons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le moteur de la croissance, c'est de la consommation. Là, on voit qu'il y a quand même une ligne de division entre les partisans d'une richesse immatérielle qui n'est pas nécessairement par de un système productif intensif, et puis d'autres propositions qui vont vers une transformation. On a beaucoup parlé aujourd'hui, puisque le président de la République réunissait les conventionnels, puisque c'est le terme dédié, ouais. Avec des propositions teintées d'une forme de décroissance à peu près dans tous les domaines, et qui, de mon point de vue, ne répond pas exactement aujourd'hui à la demande d'électeurs qui, pour les élections municipales, n'ont pas tous voté Europe Écologie Les Verts avec un modèle de décroissance en tête. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels les forces de progression d'Europe Écologie Les Verts vont devoir essayer de trouver la bonne ligne de partage entre un modèle qui n'est pas uniquement orienté sur de la décroissance, mais qui, en même temps, ne peut plus se satisfaire d'un système productif tel qu'on a pu le connaître au moins depuis le début des années 80.
Thomas Legrand, les adversaires d'Europe Écologie Les Verts vont certainement développer souvent cet argument, hein, un péril vert, un péril économique vert.
Ils l'ont fait d'ailleurs pendant la campagne, mais sauf que Europe Écologie Les Verts ne dit pas qu'il est décroissant. Il veut une autre croissance, une croissance qui est, comme l'a dit Martial Foucault, qui est basée sur d'autres paramètres. Mais ils veulent attirer des entreprises, ils veulent faire de l'emploi, ils veulent avoir du développement, mais un développement différent. Par exemple, pouvoir se développer sans artificialiser trop les sols. On peut densifier à certains endroits des villes, réhabiliter des logements sans s'étaler complètement. Vous savez qu'on artificialise l'équivalent d'un département, je crois, tous les 10 ans. C'est hallucinant. Donc voilà, il y a un autre modèle, d'autres modèles de développement qui sont proposés par les écologistes. Alors, c'est vrai qu'au sein des écologistes, il y a plusieurs tendances, il y a des décroissants. Alors, il n'y en a plus beaucoup, ils ont quitté le parti, mais il y a encore des gens qui considèrent que la croissance est quelque chose de par nature mauvais. Mais ceux qui dirigent en ce moment Europe Écologie Les Verts, et en tout cas ceux qui ont gagné les élections municipales, les maires, les principaux maires à Strasbourg, à Bordeaux, à Pointe-à-Pitre même, à Poitiers, ceux-là ne sont pas des décroissants. Ils ont une réflexion sur la façon dont doit se développer une ville avec une croissance différente.
Louise nous a écrit, elle habite Paris, elle dit « Paris a voté massivement pour Emmanuel Macron en 2017 et là, au municipal, c'est le succès de la socialiste Anne Hidalgo. Agnès Buzyn, la candidate d'Emmanuel Macron, n'est même pas élue au Conseil de Paris. Votre explication, alors, Gaël Sliman.
C'est très intéressant le cas de Paris et ça rejoint d'ailleurs la problématique de l'abstention. Parce que toutes les enquêtes que nous avons réalisées à Paris, qui ont été réalisées à Paris par Odoxa et d'autres instituts, montraient ce paradoxe. De Parisiens très mécontents du bilan d'Anne Hidalgo. On avait les 2/3 des Parisiens dans nos sondages qui disaient qu'ils étaient insatisfaits d'Anne Hidalgo en tant que maire. On avait des batteries d'items d'images sur Anne Hidalgo et sa politique qui étaient les mêmes que ceux qu'on avait pour Donahue quelques années auparavant. Et on voyait en gros que ça se renversait complètement, qu'une majorité de Parisiens était très content de Bertrand Delanoë et très mécontent d'Anne Hidalgo. Et en même temps, eh bien, dans les mêmes sondages, les gens nous disaient qu'ils s'apprêtaient à la réélire. Oui. Parce qu'en politique, ce qui compte, c'est pas d'être bon ou jugé bon, c'est d'être jugé moins mauvais que les autres. Et en l'occurrence, les adversaires d'Anne Hidalgo plaisaient encore moins aux Parisiens, et notamment Agnès Buzyn, après tout ce qui s'est passé autour de La République En Marche à Paris. Paris, il y a un an, était une ville gagnable pour La République En Marche. Si des choix hasardeux n'avaient pas été faits, d'abord Benjamin Griveaux, l'opposition avec Cédric Villani, puis l'affaire de la sextape, puis l'arrivée d'Agnès Buzyn en pompier avec les propos malheureux qu'elle a tenus au moment de la crise sanitaire, si tout ça ne s'était pas produit, eh bien La République En Marche aurait peut-être pu espérer remporter Paris. Tout cela a profité à Anne Hidalgo, clairement, mais vous avez vu cette abstention à Paris spectaculaire, parce que de nombreux électeurs n'ont pas voulu choisir entre la peste et le choléra.
Martial Foucault. sur ce cas de Paris. Il y a quelques mois, on disait qu'Anne Hidalgo serait en grande difficulté lors de ces municipales. Il y avait pas mal de problèmes, hein. La location de vélos dans Paris, la circulation difficile. Et pourtant.
Oui, et pourtant, comme quoi la vie politique municipale réserve des surprises, mais je crois que au fond, les choses sont beaucoup plus simples à Paris. Lorsque vous avez une maire sortante qui peut présenter un bilan, n'oublions pas que pour une élection municipale, le bilan des sortants est fondamental dans le choix des électeurs. Les oppositions qui étaient celles de Rachida Dati et Agnès Buzyn sur la dernière partie de la campagne ont montré que si véritablement se confirme qu'au plan local, ce sont les enjeux environnementaux qui ont dominé. Eh bien, regardons très rapidement quelles étaient les propositions des opposants et des opposantes à Anne Hidalgo pour se rendre compte que, finalement, elle incarnait la crédibilité sur cet enjeu. Et puis, je rajoute un point qui pour moi, est quand même très important. On oublie une chose sur cette élection. Il ne s'agissait pas simplement de pouvoir agiter les chiffons rouges qui permettaient de dire « la droite, c'est la sécurité pour Anne Hidalgo, c'est les questions sociales ». Non, on a vu qu'il y a de nouveaux enjeux ont émergé et qui correspondent à une sociologie qui se transforme à Paris.
Dernier courriel, beaucoup de courriels, Thomas Legrand, c'est pour vous. À quand le remaniement ?
Alors, j'aime bien ces questions. Aucune idée. Et tous ceux de mes confrères qui vous disent qu'ils ont une idée, mentent ou baratinent ou se font avoir parce que personne n'en sait rien. Je suis même pas sûr que Emmanuel Macron, qui doit se tâter en ce moment, parce que lui aussi vient de découvrir le score des écologistes hier. Donc, l'idée qu'il avait avant-hier a dû changer hier. Et puis, généralement, vous savez, quand vous arrivez à joindre quelqu'un qui peut être ministre ou qui peut changer de ministère et qui vous dit quelque chose, croyez-moi ma vieille expérience, après quand vous regardez le secrétaire général de l'Élysée sur le perron, vous apercevez que c'est pas ça. Ils sont les derniers prévenus, donc nous aussi, en fait, c'est pas passionnant. On va attendre la liste et ça nous suffira bien.
Le fait que les deux hommes, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, étaient réunis aujourd'hui, on les a vus ensemble ce matin dans les jardins de l'Élysée pour répondre aux propositions convention sur le climat. Est-ce que ça signifie qu'Édouard Philippe
Ça signifie plutôt qu'Édouard Philippe va rester. Édouard Philippe a été brillamment réélu. Il est assez populaire. Ouais. Il sort de la séquence Covid plutôt renforcé. Et en plus, le président, lui, n'est pas très populaire. Il faudrait vraiment que le président ait une très bonne idée de nouveau Premier ministre à nous présenter pour enlever Édouard Philippe. Si vous en avez une, moi là, j'en ai pas tellement d'alternatives. Donc, j'imagine qu'il est comme nous, il se gratte la tête.
Eh bien, on va attendre. C'était Le Téléphone Sonne avec Thomas Legrand, Gaël Slimane et Martial Foucault. Le Téléphone Sonne, réalisation Philippe Duclos, Patrick Henry, la préparation de l'émission, Pierre de Certaines et Maxime Cochelin.